en représentation, il y a une chose physiologique, physique, métaphysique et spirituelle qui se passe, c'est-à-dire que des pieds à la tête jusqu'au bout de mes ongles, de mes cheveux, je me suis sentie vivante, transcendée, en communion avec mes partenaires et en communion avec un public. Et cet ensemble-là, ben, j'avais l'impression d'être une étoile, d'être ce pourquoi on est sur Terre en fait.
Bonjour à toutes et à tous, je suis Alexandre Mars et vous écoutez Pause, le podcast où on prend le temps de s'arrêter, le temps d'écouter, le temps d'explorer, le temps de rire. Vous le savez, chaque épisode de ce podcast est l'occasion de marquer un temps d'arrêt pour aller à la rencontre de mes invités. Ces femmes et ces hommes sont artistes, chefs d'entreprise, écrivains, entrepreneurs, sportifs ou activistes. Ils ont accepté, le temps d'une pause, de nous livrer les dessous et les secrets de leur parcours. Nous allons parler de réussite et d'échec, d'alignement et de mission, d'entrepreneuriat et de défis. Un moment unique et sans concession pour vous inspirer et vous évader. Des moments forts que vous pourrez bientôt retrouver dans mon nouveau livre « Pause pour une vie alignée ». Un livre qui se veut être une invitation à la réflexion et une méthode pour trouver la clé de l'épanouissement, l'alignement. Un véritable message d'espoir nourri par mes expériences mais aussi celles des invités exceptionnels que j'ai eu le plaisir de recevoir à ce micro. Rendez-vous le 13 mars prochain pour le découvrir. Maintenant, place à l'épisode. Je rencontre mon invité d'aujourd'hui il y a quelques années de cela. Je donnais une conférence dans un collège, le collège où nos enfants étaient scolarisés. Je parle de partage, de sens, de réussite. On commence à discuter. Et sa simplicité, son humilité m'ont beaucoup touché. Vous l'avez connu révolté dans le rôle d'Itinéris dans Astérix et Obélix, amoureuse timide en Georgette dans Le fabuleux destin d'Amélie Poulain, mère loufoque en Cathy dans la saga Tétuche. Mon invité d'aujourd'hui est un pilier du cinéma et du théâtre français. Mais c'est bien loin des projecteurs et des paillettes qu'elle grandit. Et c'est bien ce genre de destin que l'on adore mettre en avant sur Pause. Originaire d'un petit village de la Meuse, son père est marchand de bois, sa maman, mère au foyer, et son parcours scolaire très compliqué. C'est dans le théâtre qu'elle trouve sa place à l'adolescence. Au fil de ses rencontres, au fil de ses pièces, au fil de ses films, elle s'est imposée comme véritable reine des comédies françaises. Main tendue, mise en scène, processus créatif, le temps d'une pause, elle nous fait le plaisir de lever le voile sur son parcours incroyable. Bonjour Isabelle Nanty.
Bonjour.
Comment tu vas ?
Ça va, je suis très honorée d'être là.
J'ai choisi quelques-uns de tes rôles dans mon introduction. Si on doit t'associer à un film, ce serait quoi ?
Ben, je suis très, très, très fière d'avoir participé à Amélie Poulain, parce que c'est quand même un film unique dans sa conception, dans son message, et puis dans mon chemin, parce qu'il y a eu un avant et un après quand même.
Quand tu dis un avant et un après, il faut bien, pour ceux qui, tout le monde n'était pas... déjà né hein, pour Amélie ouais. Poulain, pour certaines personnes qui nous écoutent, où était tout petit. Absolument regardé, absolument encore aujourd'hui. Tu l'as re-regardé récemment ?
Alors moi, je ne vois qu'une fois les films, mais Amélie Poulain, puisque ça fait maintenant plus de 20 ans.
Je pense.
24 ans presque. Ouais. Je l'ai revu.
Et ? Déçu ou pas déçu ?
Mais non, mais c'est dingue. Ça ne ressemble à aucun autre film. C'est visuellement extraordinaire. Audrey Tautou est unique, enfin singulière et unique. Et ce que ça raconte, le message que ça apporte, est merveilleux.
Est-ce que c'était juste une équipe incroyable qui était associée, ou c'est autre chose ?
Alors, en fait, Jean-Pierre Jeunet, lui, Jean-Pierre Génie, je l'appelle. C'est-à-dire qu'en fait... tout chez lui est lui. C'est-à-dire que son univers, c'est vraiment lui. Donc, quand on va chez lui, il y a autant de merveilles que dans ses films. Et ce que je trouvais génial, c'est que dans ses films, dans chaque plan, il y a une découverte. Il y a un truc qu'on peut voir. Et j'ai retourné avec lui dans Big Bug, pour Netflix, il y a 2-3 ans. Et pareil, dans le décor, il avait mis des détails incroyables qui n'ont même pas été filmés, mais qui nous, d'habiter dans cet endroit aussi...
Attends, tu me dis qu'il y a des décors qui n'ont pas été filmés.
Non.
Et donc, on n'a pas pu voir et qui pourtant étaient là pour vos yeux, en fait.
Bah, pour nos yeux, pour alimenter
dans le mood.
Il y a des trucs que moi, j'en aurais fait une scène. C'est juste un petit détail qui passe. Par exemple, il y avait une bibliothèque où, comme c'est un film futuriste, il y avait une espèce de collection, comme un cabinet de curiosité, d'objets d'aujourd'hui. Donc, dans un globe, il y avait un porte-monnaie qui n'existe plus dans le temps ou dans le futur. Il y avait, des collections de... Qu'est-ce qu'il y avait, une tirelire, il y avait des tas de trucs qui n'existent plus. Ouais, c'était génial.
On va revenir sur le cinéma, évidemment, avec toi, sur le théâtre, sur la partie artistique de ta vie, mais tout a commencé dans un petit village, et c'est ça que j'aime aussi dans ton parcours, c'est que tu n'as pas grandi forcément dans la famille qui allait faciliter ce développement dans le milieu artistique. On est dans le petit village de Musset, on est dans la Meuse. Tu as grandi avec une grande sœur, Astrid, un grand frère, Pascal. Ton papa était maire de ce petit village, hein, mais en plus de ça, il était marchand de bois.
Il avait une scierie. Mon papa avait fait l'école du bois parce que son père avait une scierie. Et il a fait un stage ouvrier quand il avait 20 ans, après cette école. Et il est allé faire bûcheron en Norvège avec son meilleur ami.
Et il a rencontré
ma mère là-bas.
Non, il faut qu'on en parle un peu de ce moment-là. Donc... il va à 20 ans, il va apprendre sur le terrain en Norvège.
Alors, il faut savoir que mon père avait ce qu'on appellerait aujourd'hui des troubles de l'attention graves. C'était un poète, mon père. Mais vraiment, il écrivait merveilleusement bien, il était drôle, mais il avait des gros troubles de l'attention.
Quand tu me parles de troubles de l'attention, ça m'inquiète beaucoup. Parce que c'est extrêmement dangereux, il faut savoir.
Il n'a tué personne, mais alors quand il est parti en Norvège pour faire son stage, son meilleur ami, qui est devenu mon parrain après, avait été missionné par la famille. Attention, Claude, il perd ses affaires, il perd son porte-monnaie. Alors, il lui avait confié le passeport de mon père. Il lui avait dit, attention, il faut... Enfin bon, bref, il était avec 1000 recommandations parce qu'il était en charge d'un poète, quoi. Et c'est marrant parce que quand mon père a eu 60 ou 70 ans, il y avait tous ses amis. Ils ont chacun fait un discours relatant la perte de son portefeuille à un endroit du monde. C'est-à-dire que chacun avait vécu perte du portefeuille de mon père quelque part, en Espagne, à Saas-Fee, partout. Et donc, ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est qu'il a toujours retrouvé son portefeuille.
Donc ça, il avait quand même une étoile. Ton papa, il part en Norvège et tu vas nous raconter ça parce que c'est vrai que c'est ce village de Larvik hein, qui est le village de ta maman. Et donc, il se rend compte, ça arrive à 20 ans évidemment, un moment unique. Ce qui est beaucoup plus rare, c'est que c'est pas lui qui va revenir chercher ta maman, mais c'est ta maman qui va s'échapper pour venir dans un petit village d'un département de France. Raconte-nous ça.
Incroyable. Alors, ils ont chacun leur version des faits. Hein.
toi qui es un peu au centre, donne-moi ça qui tu penses être la plus
Parce que je
réelle.
Pense que ma mère a édulcoré le truc et mon père a mis sur le compte de sa poésie le flou du récit. Je pense qu'il l'avait un peu oublié. Et que ma mère donc a travaillé tout l'été parce qu'elle venait d'un milieu très modeste. Son père était pâtissier. Et elle a travaillé tout l'été dans un champ pour ramasser des fraises, des patates, selon la saison, les fruits de saison, disons. Et puis, elle est arrivée en train, donc de Larvik à Oslo, au Danemark. Enfin, je ne sais pas quel périple elle a fait. Et pour arriver finalement dans la ville la plus proche du village de mon père. Et mon père avait raconté un bobard à ses parents en disant que c'était une amie de son ami Claude.
Évidemment.
Qu'il ne pouvait pas héberger, donc il fallait l'héberger. Mes tantes étaient dans la confidence que c'était peut-être quelqu'un que...
Pas plus que ça.
Il serait content de revoir. Elle est descendue du train. Alors elle avait bien bien calculé son coup. Elle était bien bronzée, très blonde... Elle avait mis un petit tailleur rouge avec un petit soupule noir.
Il ne pouvait pas faire autre chose que craquer.
Elle est descendue du train, il s'est dit bon, boum, il a pris le truc sur la tête. Et voilà, il est venu le chercher.
C'est voilà. Dingue.
Et on a retrouvé les deux. Mes deux parents sont décédés en 2017, dans la même année. Hein,
l'un
parce
l'un
que,
suivi l'autre hein, par
amour. Oui, parce
amour,
que,
hein.
En fait, ma mère, qui nous avait jamais parlé norvégien, quand son moteur, mon père, est parti en premier, elle ne pouvait plus parler français. Comme si son moteur, pourquoi elle était là.
Donc même à toi qui a appris le norvégien grâce à ta grand-mère, mais globalement n'a jamais parlé norvégien avec ta maman pendant toutes
jamais.
Ces années-là, tu t'es retrouvée avec ta maman qui...
Qui parlait que norvégien. Donc heureusement qu'on l'avait appris avec notre grand-mère et avec nos cousins, parce qu'elle, elle ne nous l'avait pas transmis.
Et c'est là où tu te dis que le cerveau quand même a... Et on le sait, hein.
Et donc c'est une belle histoire.
Exceptionnelle histoire.
Une grande histoire. Et donc elle s'est retrouvée
histoire.
Dans un village de la Meuse.
Sans parler français.
Sans parler français.
Parce que c'est pas là, elle n'avait pas appris le français.
Alors ce qu'il y a eu très mignon, c'est que tout le village l'a vraiment pris sous
c'est
sa...
La chouchoutée.
Donc, il y avait un petit garçon qui habitait à côté qui disait « Je vais aller garder Madame Nanty.
»
Et donc, elle a dû apprendre le français avec les gens du village et tout. Et mon père était donc directeur de cette scierie du village. Et dans le village, il y avait une famille bourgeoise de province qui était mon père et ma mère. Et puis, il y avait tout le reste, c'était les ouvriers. Et moi, j'ai grandi dans ce contexte-là. C'est-à-dire dans un contexte où tout de suite j'ai vu qu'il y avait un truc qui n'allait pas. Qu'il y avait une... Moi, ma meilleure amie, c'était Madeleine. Elle habitait à deux maisons de chez moi. Et son papa était charpentier. Ils étaient 11 enfants. Je voyais bien le décalage quand même qu'il y avait entre nos deux familles. Moi, j'étais fascinée par les fermiers. Donc, je passais ma vie chez la fermière d'en face, Madame Pierre. Et je m'occupais des veaux, je traillais les vaches.
T'étais très nature, en fait, ce que tu nous disais. Mais est-ce que toi, t'avais un... Parce qu'après, on t'a vite retrouvé à Paris. Donc, il y avait quand même une volonté de t'éloigner de ce monde-là. Parce que quand tu en parles et quand tu m'en as parlé, quand j'entends parler de toi de cette période-là, c'est une période qui a l'air quand même, à part l'école, on va revenir, assez belle. Où tu étais auprès de la nature, des animaux, des gens, toi qui aimes profondément les gens. Et pourtant, dès que tu as pu, je te retrouve barré.
C'est bizarre. Hein. Alors, juste une petite parenthèse, dans ce village, moi, j'avais vraiment... je dis toujours que quand après, j'ai été un petit peu connue dans Paris, pour moi, c'était exactement le même rapport que dans mon village, puisque... Dans un village, tout le monde se connaît et tout le monde se dit bonjour. Donc ça ne me semblait pas tellement étrange et je trouvais ça assez normal.
C'est normal. Bonjour, salut Isabelle.
Bonjour,
salut.
Bonjour, ça va et toi ? Dans mon village, je faisais la quête pour la Croix-Rouge depuis mes 9 ans jusqu'à 15 ans avec mon amie Madeleine justement. Et on allait, parce que même dans un village de 250 habitants, il y a des quartiers qui sont obscurs. Donc on faisait la quête, on allait dans toutes les maisons. Et les gens nous disaient, non, c'est pas vrai, t'es allé au Cachon. Mais non, mais alors t'es rentré chez un tel et tout.
Bah, oui, c'était le petit quartier.
Ouais.
Voilà.
Et alors, c'est comment chez eux? Et tu t'es assis et tout. Ouais, bah ouais, on a bu une grenadine. Et on rapportait beaucoup d'argent. Beaucoup d'argent. Parce que les gens, ils étaient très, très généreux, en fait. Et j'ai fait cette quête-là parce que, en fait, c'était maman qui avait été présidente de la Croix-Rouge de sa ville, de Larvik, quand elle était jeune, qui m'avait dit, il faut faire la quête de la Croix-Rouge.
C'était important. Voilà. C'est vrai que tu te rends compte souvent que ce n'est pas forcément ceux qui ont le plus, et comme tu le sais, qui donnent le plus. Donc c'est important de le souligner, et merci de le préciser.
Ben, surtout en ce moment. Hein. Ouais, on sait comme toutes les associations qui se consacrent aux plus démunis, on va dire, que ce soit la Fondation Emmaüs, le Secours Populaire ou les Restos du Cœur, que je connais un peu mieux, ils se retrouvent en grande difficulté parce qu'il y a de plus en plus de bénéficiaires, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin de cette aide-là pour ne serait-ce que manger. Et entre parenthèses, 50% des bénéficiaires des Restos du Cœur ont moins de 25 ans.
Ça a beaucoup changé.
Ouais. Et je pense vraiment, si en passant, parce qu'on là on fait des diversions, mais en fait, on va à l'essentiel. S'il y a vraiment un truc à faire maintenant, c'est aider les étudiants.
C'est important et merci. C'est sympa que tu parles de ça maintenant. C'est vrai que nous, on s'est rencontrés la première fois il y a des années de ça. Quand j'étais venu faire une conférence à une école où nos enfants étaient. Et c'est vrai que je évoquais aussi beaucoup l'organisation EPIC que j'ai créée, qui est une organisation qui justement aide à changer la trajectoire des plus démunis, donc beaucoup de jeunes. Et tu as parfaitement raison de le souligner. La Covid a accentué ce problème-là à une population de jeunes. Et encore une fois, soyons clairs, les problématiques sont pour toutes les, tous les âges. Mais on a vu une augmentation considérable de demandes. Là, on parle de Réseau du cœur et d'autres, où justement ces jeunes-là, ces jeunes étudiants, ont de plus en plus de mal à manger correctement, à être hébergés correctement. Donc ça, c'est un point important. Encore une fois, tu as raison
et
de le souligner.
Et si je peux me permettre, dans tous les immeubles à Paris, il y a des chambres de service qui sont des débarras ou qui sont des... je ne sais pas quoi. Il y en a aussi qui sont des studios que les gens louent. Moi, je préconiserais qu'une fois qu'on est à l'abri de tout, ben que les petits plus comme ça qu'on a, c'est-à-dire une chambre de service, on la prête. On la prête aux étudiants.
Genre là, je pense qu'on n'en parlera pas aujourd'hui, c'était pas prévu de voir Isabelle Nanty, ministre de l'hébergement, mais ce serait pas mal. Hein. On parle d'école, c'est bien qu'on parle d'étudiants, c'est un bon lien vers les 10, le monde des 10 que je connais aussi assez bien, dyslexie, dyscalculie, dyspraxie. Donc toi, tu cumulais tous ces 10, c'est un point très différent aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est vu... comme quelque chose sur lequel on va analyser, qu'on va parfois, souvent, pas encore parfait, dire on va essayer de vous accompagner, vous qui avez des 10. Le monde dans lequel toi tu as vécu, des moments où tu avais 12, 13, 14, 15 ans, même très jeune, hein, parce que tu t'es rendu compte très tôt que tu avais du retard sur absolument tout. Déjà, tu étais la troisième de la fratrie, donc déjà, tu te faisais battre à tous les sujets, mais en plus... T'avais des difficultés
à faire ses 10. Mais mon frère avait 2 ans d'avance.
Et en plus, ton frère est un génie.
C'est un génie.
Ouais, c'est une pression de comment.
Et ma sœur aussi, dans une autre,
dans l'art.
Oui, mais c'est un génie aussi parce que en fait, je pense que le conditionnement dans lequel on nous met scolaire et aussi de pointer du doigt nos difficultés. Nous met dans une logique qui ne nous permet pas de trouver nos stratégies, en fait. Et ma sœur, qui pensait toujours qu'elle était une idiote, etc., quand il a fallu organiser pour ma mère tout ce qu'il fallait pour elle, pour ne jamais être seule...
Après le départ du papa.
Oui. C'est ma sœur qui a pris ça en charge et c'était,
bien
c'était
fait.
Mais du génie absolu. Et donc, elle qui a été dans l'ignorance de cette capacité d'organisation, de pré-séance, de prévision, enfin, elle s'est avérée être une organisatrice, je ne sais pas comment vous appelez ça, extraordinaire. Mais elle n'est pas que ça.
Non, elle n'est pas que ça, mais c'est intéressant. Deux sujets, deux questions pour toi par rapport à ça. Un, est-ce que donc tu t'es rapidement trouvé dans un système toi, d'imposture en disant... Moi, pendant 10 ans, on m'a dit que j'étais la moins douée. Est-ce qu'à un moment ou à un autre, quand tu as commencé à réussir, tu dis juste, bah, c'est de l'imposture pure, c'est pas possible, ça va s'arrêter parce que j'ai entendu pendant trop d'années que je n'étais pas capable. Et puis, qu'est-ce que toi, ça t'a apporté? Ici, on a eu Alexia Larjoubert, Mika, Stéphane De Groot, qui sont des trois qui sont dyslexiques, à minima pour les trois, et qui ont fait des choses exceptionnelles. Mais une partie de ces gens-là nous ont expliqué que c'est parce que ils avaient été dyslexiques, qui ça leur a donné, tu vois, c'est un peu l'aveugle qui va être meilleur avec le toucher. Ça vous a permis d'avoir des talents qui étaient peut-être insoupçonnés.
En fait, moi, j'ai été dans l'ignorance de ça. J'ai quand même été en quatrième de transition. Hein. Tu sais, c'était ce qu'on appelle maintenant les classes transitoires vers les CAP et tout ça.
Ah, tu pouvais sortir, c'est en quatrième que tu peux sortir.
En quatrième.
Tu sors ton modèle pour que tu ne... Voilà, c'est ça que tu avais fait, toi, t'étais à deux doigts de partir en...
Ouais. Et donc...
Mais t'as pas redoublé pourtant.
Non, j'étais un peu une fille du troisième trimestre aussi. Hein.
Tu travaillais un peu plus. Mais tu travailles. C'était le travail ou c'était plus
que
le travail?
Mais j'étais pas très organisée. Comment dire? Je lisais une page, je me dis, ah merde, il faut que je reprenne au début, parce que je ne sais plus de quoi ça parle. Et j'ai aussi, un instinct de ne pas lire ce qu'il faut lire. C'est-à-dire que, par exemple, je vais lire un truc et puis je vais sauter les paragraphes. Maintenant, j'ai le réflexe de me dire, relis voir les paragraphes que tu as sautés.
C'est peut-être les plus importants, c'est ça.
Évidemment. Les plus importants et les choses qui vont le plus me parler et peut-être même m'ébranler. C'est fou. Et je pense que moi, je me suis vécue comme ça. J'ai l'impression d'avoir été hors de moi et hors de la vie et hors du monde. C'est-à-dire, je n'ai jamais rien compris à rien. Et en fait, depuis quelques années, je m'efforce, je me suis prise en main. Et donc, j'écoute énormément les infos, je lis beaucoup de trucs, je veux comprendre. Dans mon enfance, c'était une particularité qui plaisait, surtout aux adultes, parce que
Tu retombais toujours sur tes pieds, en plus.
Oui, puis j'étais une show woman, et puis j'étais une enfant sauvage, j'étais dans les sens tout le temps.
T'étais une show woman à 12, 13, 14 ans, tu compensais ça ?
Alors, quand j'étais petite, je l'étais absolument. Ensuite, à l'adolescence, je m'en suis servie comme une arme d'intégration. Mais, et puis ensuite, je me suis calmée. J'ai rencontré des gens tellement brillants dans ce domaine que je me suis bien rendu compte que j'étais...
Il y avait
une différence de niveau.
Donc, tu aurais pu imaginer être comique ?
Mon envie de théâtre, c'était une envie de faire le clown, je pense.
Le jour où un docteur a mis un nom sur quelque chose que tu ne comprenais pas, ça t'a fait un bien fou ce jour-là ? Quand t'as dit, c'est ça, c'est...
Non, c'était trop tard.
Trop tard.
Non, ça fait du bien pour moi maintenant parce que j'ai compris les stratégies que de moi-même j'avais mis en place, mais qui sont très encombrantes. Parce qu'au lieu de faire simple, j'ai fait beaucoup plus compliqué, par exemple pour apprendre les textes, pour tout ça. Je faisais plein de mnémotechniques, ce qui encombrait encore plus mon cerveau. J'utilise plein de couleurs de Stabilo-Boss.
Encore aujourd'hui, hein.
Encore aujourd'hui, j'ai des post-it partout. Mais ça, c'est devenu un plaisir. Hein. C'est comme ça que
c'est ta vie, c'est ta norme à toi.
Voilà, quand j'apprends mes textes, Mais ce qui était difficile, c'est au cinéma surtout, parce qu'au cinéma, il faut aller vite et il faut intégrer énormément de choses en très peu de temps. Et
c'est juste l'inverse, l'inverse de ce qu'il faut pour toi.
Exactement.
Donc le théâtre est plus simple, parce que tu as le temps, tu as un mois et demi pour préparer cette pièce.
Donc je me suis toujours vécue comme pas douée. Et quand tout d'un coup, j'arrivais à intégrer toutes les contraintes, tout d'un coup, je trouvais l'inspiration, parce que je pouvais m'échapper de... Et donc en fait, je n'ai pas le goût de la technique de notre métier maintenant, un peu par curiosité, mais je n'ai jamais eu le goût de ça parce que c'était des obstacles pour moi. Et je pense que j'ai été un obstacle aussi pour mes partenaires parce qu'ils devaient se demander si je ne me foutais pas de la gueule du monde et pourquoi j'avais tant de problèmes en fait. Et maintenant que je sais les choses et que je désapprends parce qu'en fait, je trouve qu'il y a une liberté et une innocence. Je n'aime pas beaucoup le professionnalisme. Enfin, j'aime le professionnalisme quand il est synonyme de « on peut te faire confiance, tu vas le faire ». Mais je n'aime pas quand il est une protection
À la liberté.
À la liberté.
Est-ce que tu as justement connecté avec d'autres actrices ou acteurs qui avaient aussi ces 10 ?
Alors, je ne leur ai pas demandé, mais je me rends compte maintenant que mon goût va vers ceux qui ne fabriquent pas.
Ceux qui sont eux, en fait, c'est ça que tu dis.
Ouais, moi j'aurais adoré pouvoir fabriquer. J'avais une admiration pour ça, pour les personnes qui préméditaient de faire telle chose dans tel moment et tout. Maintenant, j'ai plus le goût de ceux qui le font, mais sans presque y avoir pensé, quoi. C'est l'inspiration.
C'est plus dur.
C'est les personnes qui sont traversées par quelque chose, à qui les choses arrivent plus qu'ils ne le veulent. C'était l'éducation, en fait, que me prodiguaient Weber, Huster et Florent. Ils me traçaient ma route un peu. Parce que sinon, moi, j'aurais rien fait. Hein.
Et c'est ça la chance, c'est de rencontrer des gens qui vous emmènent vers vous-même.
Théâtre, ça arrive tôt, hein, puisque je te retrouve là à 16 ans, une petite troupe de province qui s'appelle la Folliole.
Ouais, je les compagnons de la Folliole.
Qu'est-ce que ça voulait dire, Folliole, mais...
Je ne sais pas, je n'ai jamais demandé.
T'as jamais demandé.
Ça fait partie de mes 10.
Ouais,
c'est de ne pas.
C'est une chose.
Il y a déjà tellement de trucs.
Donc, c'est Jean-François Schaff qui était à la tête de cette troupe. Là, ça te paraît logique, c'est depuis toute petite, tu faisais la showwoman. Là, ça te paraît logique que cette petite troupe de province, tu dis, hey, les gars, moi, oui. Je veux en faire partie. Donc,
voilà, mais au début, je suis allée dans des troupes d'école et on ne me faisait pas jouer, on me faisait faire les costumes, on me faisait faire. Parce que je correspondais à leurs yeux à aucun rôle qui était possible de jouer dans les pièces. Donc c'était déjà un petit warning sur ce qui s'est passé ensuite, hein, franchement. Mais donc j'étais frustrée de ne pas
jouer. Mais t'as pas abandonné, c'est important pour les gens qui nous écoutent. Tu n'as jamais abandonné.
Non, on m'a parlé un jour de Jean-François Schaff qui avait cette troupe. Amateur, mais une bonne troupe. Et j'y suis allée. Et là, grâce à lui, j'ai découvert, je me suis rencontrée.
Comment s'est passée cette rencontre ?
D'abord, j'ai rencontré Jean-François Schaff, qui était quelqu'un d'extrêmement marrant, enthousiaste, très érudit, qui était... je sais pas, j'avais jamais vu quelqu'un comme ça, en fait, dans ma vie. Enfin, il y avait mon père et ses amis qui étaient des farfelus.
Et là, t'avais...
Mais lui, c'était...
Il représentait. Il était érudit, oui. Il connaissait le théâtre,
et puis,
il savait
tout d'un
jouer.
Coup, il a cru en moi. C'est-à-dire, j'étais pas un problème.
Donc, c'est la première personne ?
Oh, oui.
Dans ta vie, c'est
ah, ouais.
Première.
Donc, lui, il m'a...
Tu l'as revu après ?
Bien sûr. Alors, on a, avec nos vies, on a un petit peu du mal, mais je suis toujours en contact avec lui.
Dans le livre que je viens de publier, qui s'appelle « Pause », qui parle de plein de sujets qu'on aborde ici dans ce podcast, il y a un sujet important quand on rencontre des gens. Moi, j'adore ces rencontres. Je pense qu'on en a tous et toutes eu des rencontres qui ont changé la trajectoire de nos vies. Et je dis souvent, moi, ce que je fais et ce que je dis à mes amis, allez remercier. Parce que c'est vrai que ces gens-là, ils n'ont pas fait pour ça. Hein. Mais quand 5 ans, 10 ans, 15 ans, 20 ans après... Tu invites Jean-François à venir voir une avant-première, tu dis, c'est important. Parce qu'il y a des gens qui sont exceptionnels sur Terre, ceux qui vont tendre la main. Je sais que toi, c'est un terme que tu aimes bien, tu vois, tendre la main. On continue de parler de cette première fois sur les planches, parce que je me souviens de Danny Boone. Il me dit, j'avais 9 ou 10 ans, avec un centre aéré, on a visité un truc, une expo, on traverse un théâtre, et là, j'ai la révélation. C'est marrant, c'est ça que ça me fait penser à toi. Je me retrouve sur la scène avec mes copains, il y a juste le silence, la magie de cet endroit. On ne pouvait pas dire à quelle époque on était, à quelle heure il était, où on était. Et je me suis dit, cet endroit est un temple, il y a une magie, de l'émotion en fait, je me dis, c'est ça que je veux faire.
C'est toi, beau. C'était ça. Hein. C'est beau parce que c'est vrai que c'est ça qu'on sent quand Danny est sur scène. C'est qu'il est, dans un... comment on appelle ça ?
On
le
halo.
Sent, dans un halo, on le sent protégé par du sacré, en fait.
Faut le pousser à revenir un peu sur scène. Hein ?
Il va venir.
Ah,
ouais,
on a un scoop, là.
Moi, ce que j'ai ressenti quand je me suis mise à jouer, et surtout en représentation, parce que je ne me souviens plus bien des répétitions, mais sauf qu'on rigolait bien, mais en représentation, il y a une chose physiologique, physique, métaphysique et spirituelle qui se passe, c'est-à-dire que des pieds à la tête jusqu'au bout de mes ongles, de mes cheveux, je me suis sentie vivante, transcendée, et capable de d'imaginaire et de créativité comme jamais. En communion avec mes partenaires et en communion avec un public. Et cet ensemble-là, ben, j'avais l'impression d'être une étoile, en fait, de faire partie du cosmos, d'être ce pourquoi on est sur Terre, en fait. Je pense que ça, on peut le ressentir dans l'amour, on peut le ressentir dans plein de moments de la vie, par des belles amitiés, par des échanges, par...
À quel moment, quand tu te trouves différent, tu te trouves accepté, tu te trouves apprécié ? C'est déjà des termes qui sont pour toi très neufs à ce moment-là, et t'es pas comme si t'avais 10 ans, t'as un âge de comprendre. tu décides là que c'est ça être ton métier. Ce moment-là, tu dis, c'est ça que je veux faire. N'oublions pas, hein, on est dans la Meuse, il ne se passe pas forcément autant de choses dans la Meuse qu'en région parisienne. Donc, il y a aussi un moment, un changement de vie qu'il va falloir que tu t'imposes. Ça ne te fait pas peur, ça?
Alors, en fait, après, j'ai vu un grand échiquier où Francis Huster et Jacques Weber...
Là, on a la télévision, le grand échiquier.
Ouais. Je regarde ça dans le salon de mes parents, dans notre maison, à la campagne. Et je vois ces deux-là jouer ensemble. Et puis, un monologue d'Huster, La fleur à la bouche de Pirandello. Et je pleure. Et à ce moment-là, j'entends dire qu'ils viennent tous les deux du cours Florent, que Francis Huster a une classe libre dans ce cours Florent, qui était le cours de François Florent. Et donc, je n'ai qu'une idée en tête, c'est d'aller rejoindre ce cours-là. Mais j'ai 15 ans. J'ai une amie, Pascale Chevalier, qui voulait faire du théâtre aussi, et qui est devenue une grande historienne, qui m'a dit, ben viens, on va préparer le concours. Et donc, on prend le train et tout, on va présenter. Mais moi, j'ai 16 ans, là, à ce moment-là. Et François Florent me dit, passe ton bac d'abord.
Voilà, c'est douche froide.
Douche froide. Me dit, tu n'es pas Adjani.
Deuxième douche froide.
Passe ton bac d'abord. Oui, j'étais pas une jeune première. J'étais pas quelqu'un qui allait travailler à 16 ans. J'étais quelqu'un qui a d'ailleurs commencé à vraiment travailler à 28 ans.
Il avait raison,
bien sûr. Il avait une vision très, très... très précise des gens et très, comment dire, une préscience.
Donc là, voilà. tu retournes voir maman et papa.
Je passe mon bac.
C'est deux ans après quand même, donc c'est un peu de temps.
Donc je continue avec la folio. Je vais au Compagnon de la Folliole, on joue 3-4 pièces. Antigone, Danouille, la cantatrice chauve, et puis des Phédo, je crois.
T'as 18 ans, t'as ton bac, tu retournes.
Et là, je ne l'ai pas non plus. François Florent, il me dit bon bah tu peux t'inscrire au cours, donc je m'inscris au cours.
Non, là on est en libre.
Non, c'est pas la classe libre, c'est la classe où on paye.
Ah d'accord.
Et donc je rencontre mon premier prof qui est Rémi Chenille, et ça c'est des rencontres, c'est génial. Et il y a un garçon qui a assisté à ma première audition en fait, où on se présente et tout ça, et où on passe une scène. Alors je sais même pas ce que j'ai passé. Il y a un garçon qui m'attend à la sortie, Étienne Le Foulon, qui était élève en même temps que moi, et qui me dit « Toutes les scènes qu'il t'a données, je les travaille avec toi. » Et donc, j'ai eu mon partenaire privilégié, qui a eu, lui, le conservatoire après et
parce que toi, tu n'as pas eu.
Que je n'ai pas eu, et que quelques années après, j'ai demandé à ce qu'il joue un des personnages dans Munch, la série que je faisais sur TF1. Et donc, là... Alors ça c'est intéressant, parce que là, j'ai un prof qui est fan de moi.
Donc on parle bien de Rémi Chenille. Hein.
Rémi Chenille, il est adorable, il me soutient.
Il voit en toi quelque chose que les autres n'avaient pas forcément
vu. Mais moi, ce que je découvre, c'est que là, tout d'un coup, c'est un métier. Moi, je pensais aller faire le guignol, en fait. Et puis tout d'un coup, je découvre tout ce que ça représente, et ce que c'est que d'être un athlète des émotions, en fait. Et là, je suis hors toutes mes angoisses scolaires. Hein. C'est juste travailler les scènes, faire ce qu'on vous demande, d'être dirigé. Je me rends compte qu'en fait, ce que j'adore dans mon métier, c'est d'être dirigé. C'est-à-dire qu'on joue de moi comme d'un instrument. Qu'on me dit un peu plus comme ci, un peu plus comme ça. Je n'ai aucun orgueil avec ça. C'est-à-dire, il y a même des metteurs en scène, ils peuvent me montrer ce qu'il faut faire. Ils me dirigeaient à l'intonation, du moment que ça leur plaît.
Et qu'il y a de la douceur.
Et qu'il y a de la douceur.
On ne reviendra pas sur ce réalisateur dont tu n'as pas voulu donner le nom jamais, qui a été absolument infect avec toi. Mmh. Isabelle, parlons de choses positives. Je te propose une pause amicale. Donc, j'ai demandé à quelqu'un qui te connaît de te poser une question. Surprise, on écoute, ça va te faire plaisir.
Isabelle, je ne sais pas si tu t'en rappelles... Mais à l'époque où tu étais élève au cours Florent, on t'avait distribué, je ne sais plus pour quelle échéance, dans le rôle d'Agrippine, dans la pièce Britannicus. Et ce que tu nous avais proposé était tout à fait convaincant, tellement convaincant que je m'en souviens encore. Et j'aurais voulu savoir si aujourd'hui on te proposait de jouer le rôle d'Agrippine ou celui de Lady Macbeth, comment tu réagirais ?
Merci Rémi pour ta question. T'as vu, hein, je savais pas que t'allais me poser une question et j'ai parlé de toi juste avant.
Ouais, c'est beau, hein, tu vois, ouais. C'est synchronicité.
Ouais.
Donc metteur en scène, professeur d'art dramatique, quelqu'un que t'aimes beaucoup, ça se sent, ça se voit.
Ouais, beaucoup, beaucoup.
Et donc il te dit, il se souvient de ça, t'imagines ?
Ah ouais, c'est dingue.
C'est dingue.
Bah, c'était pour le concours de la classe libre que j'ai fini par avoir.
Finalement.
Ouais, et Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment. Là, je déconne. Hein,
tu as joué comme ça ? Vraiment, t'étais comme ça ?
Bah, tu surjouais comme ça ? À peu près, ouais, je faisais « Albine, il ne faut pas s'éloigner un moment, je veux l'attendre ici. »
Tu te souviens encore du texte, toi ?
Que de cette phrase.
C'est ça. Ça
mais
ça
c'était un peu la... Je le jouais un peu comme la sorcière dans Blanche-Neige, en fait.
La voix là, qui fait peur, tu m'inquiètes.
Ouais, la voix
donc,
qui fait
donc,
peur.
Donc, il te pose la question. Aujourd'hui, on te proposerait ça ?
Non, je crois que j'ai plus envie de jouer des classiques. Je pense que j'ai envie de jouer des auteurs contemporains. Il faut aider les auteurs contemporains. Il faut, on ne progresse qu'en étant joué.
S'il y en a un que tu trouves absolument incroyable aujourd'hui d'auteur contemporain ?
Bah, il y en a plein. Il y a mon ami Fabrice Roger Lacan qui est un grand auteur dont je n'ai jamais joué les textes.
C'est un message là.
Mais que j'ai mis en scène 3 fois. Cravate Club, Irrésistible et... Et quelqu'un comme vous. Non, mais n'importe quel auteur, même une première pièce, je trouve que c'est génial. J'ai joué cette année dans le film de Rudi Milstein, Je ne suis pas un héros. C'est un auteur extraordinaire, Rudi.
Tu vas rencontrer quelqu'un qui va également être très important pour toi,
oui,
on parle de Francis Huster.
Oui.
Il te propose rapidement de devenir assistante, son assistante. Mmh. Il te donne tes premiers rôles théâtre. Donc là aussi, c'est lui qui te montre aux yeux du monde. Ce
ouais.
monde-là était le monde parisien, il n'empêche.
Ouais.
C'est Francis.
Alors moi, je ne le vis pas comme ça. Hein. Je le vis comme. Oh ben, je suis embarquée. En fait, je suis embarquée, donc j'apprends. Je suis assistante, et là, c'est vraiment là où j'ai appris à être metteur en scène. Parce que je vois de l'extérieur un metteur en scène travailler et des acteurs être dirigés par ce metteur en scène. Donc j'ai appris, je pense, énormément à ce moment-là. Et puis il me fait jouer mes premiers rôles sur scène. Énorme chance, mais je ne me rends pas compte, moi, de la chance que j'ai. C'est... Je ne vis rien comme un événement... Je suis un peu à côté de moi tout le temps.
Ou c'est normal, peut-être ?
Non. Non, non, j'ai jamais trouvé que c'était normal, mais j'ai jamais trouvé que c'était dingue. À part les moments qu'on vivait tous ensemble qui étaient exceptionnels, à part que j'avais quand même cette notion de l'exceptionnel qui se passe, c'est-à-dire quand Huster était inspiré, qu'il faisait tout d'un coup, il créait une scène. Il mettait en scène Jean-Louis Barrault ou Jean Marais. Enfin, j'avais quand même conscience que c'était quelque chose. Hein. Mais moi, sur scène, je ne sais pas comment dire ça. Je sais que j'avais de la chance, je le sais, mais je ne le vivais pas comme ça. Parce que tout était difficile pour moi. Je ne me suis jamais sentie une facilité à faire ce métier. Et encore maintenant... je me sens laborieuse, je me sens pas du tout douée. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est que, encore maintenant, je ne me sens pas douée. Et j'ai une admiration telle pour les gens qui le sont et qui savent faire des choses que je ne saurais pas faire. Mais je crois que j'ai eu l'astuce de m'étourdir. C'est-à-dire de me laisser... perdre connaissance.
Oh, j'adore.
Ce qui me fait cette sensation de ne pas être travailleuse même, je suis laborieuse, mais je ne me trouve pas travailleuse parce que j'ai besoin de beaucoup de pauses. Comme j'ai des troubles de l'attention, ça c'est sûr.
Oui.
Maintenant, j'en ai la conviction. Tu vois, quand je répète avec quelqu'un, au bout de 15 minutes, je fais une pause.
Tu t'arrêtes.
Au bout de 30 minutes, je propose qu'on aille au café.
Et tu penses... Moi, je me posais la question sur quelqu'un que j'aime beaucoup, que je ne connais pas, mais que j'aime beaucoup dans ce qu'il représente, Pierre Niney. Oui. Est-ce que tu penses que c'est juste un talent? Est-ce que tu penses que c'est un travailleur? Tu penses que c'est un... Est-ce que c'est un laborieux, d'après toi?
Ah, je ne connais pas Pierre Ninet plus que l'avoir croisé pour avoir fait un casting avec lui. Là,
son émission sur Canal+.
Ouais, voilà. Mais quand je le vois jouer, quand je le vois... Je l'ai vu sur scène, je l'ai vu dans les films. Non, je pense que c'est un virtuose.
Virtuose.
Je pense qu'il est, il a un cerveau qui va anormalement vite.
Rassure-moi, il semble travailler quand même ou pas?
Ben, j'en sais rien.
D'accord, on lui demandera.
Il faudra lui demander.
On va lui demander.
En tout cas, il est doué.
Alors c'est
sûr.
Ça, c'est
Moi, je ne me vis pas comme doué. C'est ça le problème. C'est qu'en fait, tous les trucs que j'aimerais savoir faire, je ne sais pas les faire.
Ce que j'aime beaucoup aussi, c'est ce moment où je t'ai retrouvé en tant que professeur. Alors là, c'est la boucle est bouclée. Les professeurs qui te voyaient, qui disaient « Non, c'est pas possible, Isabelle, là, tu te retrouves à être professeur. » Et là, on est au cours Florent. Tes élèves, des gens qui sont devenus des grands comédiens, on parle de Pierre-François Martin Laval, on parle d'Edouard Baird. Toi qui avais été de l'autre côté, est-ce que t'as géré ça différemment? T'as aimé ces années de professorat?
La mise en scène, c'est Huster qui m'a dit « Il faut que tu me mettes en scène ». Moi, je ne savais même pas ce que c'était, à part l'avoir vu comme en tant qu'assistante et l'avoir vu faire. Je me suis dit, c'est autre chose d'observer et d'être dedans. Et grâce à lui, j'ai découvert quand même que j'aimais ça. J'aime la mise en scène. J'aime être sollicitée dans tout mon cerveau sur tout ce que comporte la mission du metteur en scène, c'est-à-dire amener le bateau à bon port. Et ça, on parlera après de la mise en scène, parce que c'est devenu autre chose pour moi après. Mais ça, je l'ai découvert. Et puis, moi, j'ai été virée du cours Florent quand j'étais en deuxième année de classe libre. François Florent m'a virée pour prétention et indiscipline, je pense. Bon,
alors on vire souvent au cours Florent?
Non, pas souvent. Ma meilleure amie Gabrielle Dutruc-Rosset et moi-même avons été virées en même temps pour
impertinence, tu penses?
Oui.
C'était un professeur à qui t'as mal répondu?
Non, c'était une pièce qu'on montait pour un spectacle de fin d'année et on était infernal.
Donc tu le sais, en fait.
Je pense que
tu l'as mérité, en fait.
Je crois qu'on l'avait pas volé.
Donc, c'est bien de reconnaître, c'est un destin, c'est amené à faire autre chose.
Mais quand j'ai demandé à François Florent, avant que malheureusement il disparaisse, mais pourquoi en fait j'ai été virée, il m'a dit je ne me souviens pas.
Donc ça
ne devait pas être si important. En tout cas, trois ans ou deux ans plus tard, François Florent, le même qui m'a virée, il m'engage comme prof. Donc à l'insu de mon plein gré, hein, parce que, comme dire l'autre, j'avais vraiment pas envie d'être prof. Mais ça, l'éducation, en fait, que me prodiguaient Weber, Huster et Florent, c'était de... Ils me traçaient ma route un peu.
Ils voyaient des choses que tu ne voyais pas.
Parce que sinon, moi, j'aurais rien fait. Hein. Et c'est ça la chance, c'est de rencontrer des gens qui vous emmènent vers vous-même. Et moi, de moi-même, jamais j'aurais été prof, jamais j'aurais été metteur en scène.
On parle d'un ami commun qui t'aime énormément, Gad Elmaleh. Là, tu le vois arriver, tu vois un comédien, tu vois un humoriste. Je me souviens, j'avais eu ces discussions-là avec Stéphane De Groot, que j'adore. J'avais dit humoriste. Non, moi, je ne suis pas humoriste. C'est pas la même. Et donc, toi, tu sens le potentiel de Gad d'être humoriste, ou pour toi, c'est juste un exceptionnel comédien?
Alors, Gad, je ne l'ai pas rencontré au cours Florent. Je l'ai rencontré par une amie commune qui s'appelle Cécile Paoli et qui avait joué avec lui dans une pièce de Planchon, je crois. Et elle me dit, il faut absolument que tu rencontres Gad, il prépare un spectacle. Et j'avais dit non. Je vais même dire quelque chose que même Gad ne sait pas. Elle me donne la cassette du spectacle que Gad avait fait. Je regarde ça, c'est une VHS. Et je dis à Cécile, non, mais moi, je vois pas ce que je peux apporter à ce gars. Je sais pas, j'ai pas bien compris. Parce que moi, je peux passer à côté. Hein.
On l'a vu tout à l'heure, comme sur un paragraphe. Là, tu sautes le mauvais paragraphe.
Ouais. Et donc, elle me dit, écoute, est-ce qu'au moins, tu peux le rencontrer? Alors, bon, bah, je le rencontre.
Et là, mais je tombe dingue de Gad.
Mais il le sait. Qu'est-ce qu'il ne sait pas dans tout ça? Tu disais qu'il y a des...
Non, mais il ne sait pas que moi, la cassette, je...
ça m'avait pas fait...
ça m'avait pas du tout tilté.
Ni fait rire, ni amusé, ni rien. C'est le premier... Dans la première minute, tu tombes dingue de lui?
Mais dingue, ce charme est inouï, cette intelligence est inouïe.
Une intelligence de situation exceptionnelle.
En plus, Gad, il observe des choses que personne ne voit.
C'est sûr.
Donc on était dans ce café, il va me montrer un truc, je dis mais comment là, on peut voir
talent,
ça? Et donc à la minute, je me dis mais mon Dieu, t'as failli passer à côté de ce gars, t'es vraiment conne. Et donc dans la minute, je lui dis bah ok, on va le faire. Mais ce que j'ai découvert en travaillant avec lui, c'était puissance 4000. C'est-à-dire que Gad, c'est un poète. C'est au-delà du bon comédien ou de l'observateur ou du penseur. C'est un poète. Tout d'un coup, son esprit passe en mode déconnecté. À un autre niveau. À un niveau céleste, quoi. Un niveau spirit, comme très peu de gens ont.
Donc Isabelle, passons à une deuxième pause amicale. Je pense que tu as compris qui allait te poser cette question. Gad Elmaleh.
L'ami Cahouette, la mystérieuse, l'ami Molette, la militaire. J'ai une question pour toi. Tu sais, Isabelle, il y a fort longtemps, quand tu faisais la mise en scène de mon spectacle, on répétait, j'étais sur scène dans la lumière, tu étais dans la salle qui était éteinte, donc dans l'obscurité, et moi, je te cherchais parfois. Alors, je disais, Isabelle, t'es là? Tu disais, oui, t'es là, ne t'inquiète pas. Et parfois, t'étais pas là. Alors que t'étais là. Mais t'étais où quand t'étais pas là? Je veux juste savoir où t'étais. Je sais que t'étais là. Mais quand t'étais pas là, où t'étais?
Mais tellement. Alors, Gad, c'est vrai qu'il me disait, Isabelle, la façon dont quelqu'un vous appelle, c'est tellement émouvant. Comme un enfant qui dit « Maman !» Gad, il avait une façon de dire « Isabelle !» C'était... plus jamais j'ai repensé à ça, mais c'est vrai, il a raison. Il y avait des moments où j'étais pas là, parce que j'étais ou dans son cerveau à lui, ou en anticipation sur ce que je voulais dire, mais que c'était pas le moment de le dire. Ou, comme quand je me fais des entorses, comme récemment, complètement parti. Il y a des moments, je suis complètement partie.
Gad.
Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Gad, j'ai découvert un truc, c'est que ça n'existe pas la mise en scène. C'est-à-dire qu'en fait, la mise en scène, c'est invisible. Oui, on dit là, telle lumière, là, claque, ça serait bien que tu fasses un temps et tout. Mais c'est pas ça, la mise en scène. La mise en scène, c'est être être d'inconscient à inconscient. C'est d'être complètement fondu à l'autre.
Et ça, avec Gad, t'y arrivais? T'y arrives à
lui,
chaque fois?
Lui, il le sait pas. Parce que le principe, c'est que je pense qu'il faut donner l'illusion que, justement, tout se fait tout seul, en fait. Les choses se font tout seul, mais c'est vrai que Gad, les choses se font beaucoup grâce à son génie. Mais il y avait des moments, je lui disais pas, mais je pensais à un mot, il le disait. Ou ouais, ça m'est arrivé aussi avec Julie Ferrier. Mais ce travail-là, il est épuisant, épuisant. Les dernières fois où j'ai mis en scène, il faut tellement avoir confiance que les choses vont se faire. De toute façon, et montrer la confiance qu'on a que les choses vont se faire. Et ne montrer que, en fait, une extrême rassurance et donner juste ce qu'il faut comme indication, pas bourrer le crâne, trouver le bon timing, lequel moment il faut dire, à quel moment il faut dire telle chose à un tel et telle chose à un tel, et que ça n'empêche pas l'autre de travailler, ou quand on est seul avec quelqu'un, que ça ne soit pas quelque chose qui va le faire trébucher ou le faire douter.
c'est tellement d'infos qui passent dans notre cerveau que c'est épuisant. Et moi, ça me fait prendre du poids. Ça me fait prendre... ça me tue.
C'est une des raisons pour laquelle tu en fais moins ?
Plus du tout. Alors maintenant, quand je... Je viens 5 jours avec mes amis. Certains amis, je viens 5 jours, comme ça, à faire un petit peu de questionnement, de sparring partner, en fait. Ouais. Mais ça, je peux plus...
Passer comme ça 3
non,
mois...
Non, parce que cette énergie-là dont je parlais juste avant, j'en ai besoin dans la vie.
Cinéma, on va en parler. Je l'avais évoqué quelques-uns de ces films quand je te présentais. J'aurais pu rajouter aussi Tati Daniel, Les Visiteurs, Les Profs. Donc, on a beaucoup de choses. Tu as commencé dans un film de Paul Bougenard qui s'appelle Le Faucon, en 1989. C'est vraiment le départ. C'est vrai que moi, j'ai toujours une question pour les personnes qui ont le talent de pouvoir être aussi bien comédien de théâtre et acteur de cinéma. Tu as une préférence, j'ai compris que c'était plus difficile pour toi le cinéma. Est-ce qu'il y a une préférence comme entre les deux ou pour toi, tu t'aimes les deux, c'est plutôt le projet qui va te faire préférer l'un à l'autre?
C'est les gens.
Ouais.
Ce que je préfère, c'est les gens. Les gens avec qui je vais faire le truc. Alors en fait, mais même à tel point, et je ne mens pas quand je dis ça, si on me fait venir... Moi, j'ai une copine qui a un restaurant. Ça m'est arrivé d'aller dans son resto et de servir. Moi, ce qui me plaît, c'est d'être avec elle. C'est les moments dans la vie qui me plaisent. Donc, c'est plus l'affection que j'ai pour la personne ou la découverte de l'affection que je pense je vais avoir pour la personne qui me font aller vers le projet que la lecture du scénario ou la lecture de la pièce.
Donc on commence à te reconnaître à partir de Tati Daniel, grand succès il y a quelques années de ça. Comment toi tu l'as géré? Tu m'as dit que tu venais d'un petit village où chacun parlait à chacun. Comment tu l'as géré cette notoriété? Au départ, ça paraissait, c'était sympathique. Puis tu as trouvé ça un peu dur. À un moment, je me souviens, on parlait tout à l'heure de Danny Boone, qui avait trouvé ça, commencé à trouver ça trop. Quand un de ses enfants avait fait une bêtise, et c'était passé parce qu'on lui avait dit « c'est votre fils, Danny », et qui avait trouvé ça pas normal en termes de, toi, d'égalité. Donc toi, tu as toujours apprécié ce moment-là, les gens viennent te voir régulièrement, tu le vois souvent après un film où là, tout d'un coup, les gens t'arrêtent dans la rue, viennent te parler de manière très gentille ou ils te laissent tranquille. Comment tu gères ça?
Les gens sont très gentils.
Toujours.
Toujours. Mais moi, je prends le métro et le bus. Donc, on pourrait dire que je m'expose à l'exposition. Et en fait, plus on vit normalement, et moins on est embêté. Les gens, ben, ils vous croisent, ils se disent, bon, ben, elle va comme moi au boulot, ou elle va comme moi faire ses courses. Ou... Là où c'est gênant, je trouve... très tôt, par exemple, j'ai appris à ma fille non, quand on t'invite à ne pas faire la queue parce que c'est moi, oh non, on fait la queue, comme tout le monde. Ou les privilèges, ça c'est...
Ça passe pas pour toi, ça?
Non, j'ai jamais usé de ça, j'ai toujours payé le coiffeur, j'ai toujours payé tout. À plein pot, et non, mais vraiment. Et par contre, je trouve... pas possible, les personnes qui viennent interrompre une conversation ou un moment avec ma fille, ou qu'on est en train de faire des courses, qu'on vient nous embêter, parce qu'en fait, ça, c'est vraiment comme si on vient me violenter.
T'arracher un moment de...
Oui, et pour elle aussi, c'est dur. Mais sinon, tout le reste, je le vis comme une grâce, comme une... Je suis reconnaissante à la gentillesse des gens. Moi, je crois qu'il y a un potentiel immense chez chacun. Il y a des gens qui vont être peut-être intellectuellement moins... Mais ils vont avoir un don pour autre chose, etc. L'école devrait servir juste à ça. Éduquer sur les choses pratiques de la vie... Mettre un petit peu de culture en plus. Pour qui a des capacités, les améliorer dans des capacités qu'ils auraient. Mais surtout, comprendre qu'en fait, Ce qui va surtout nous faire vivre, c'est les autres.
On va revenir de ce compte sur quelque chose qui est toujours intéressant, moi, qui m'intéresse toujours, c'est les gens que toi tu connais, qui les gens qui nous écoutent ne connaissent pas forcément, on les voit avec toi sur scène et là au cinéma. Quand je cite, on en a parlé depuis le départ, Audrey Tautou, Édouard Baer, Christian Clavier, Gérard Depardieu, Jean Rochefort, Jean-Paul Rouve, il y en a beaucoup d'autres qui ont travaillé avec toi. Est-ce qu'il y a quelque chose de commun dans tous ces artistes? Et plus que de commun, si c'est une question qui n'est pas forcément la plus adaptée, est-ce qu'il y en a un ou une qui, par son processus créatif, un peu comme on parlait tout à l'heure de Jean-Pierre Génie, Jean-Pierre Jeunet, t'as dit, ça, on est dans une galaxie, un peu comme Gad tout à l'heure, c'est pas juste, tu travailles ton texte, tu sais le faire, et puis après tu rentres chez toi et tu touches ton cacheton, c'est plus que ça.
Bah, je pense quand même, il y a quelques personnes totalement exceptionnelles dans leur expression. Je parlais de Julie Ferrier tout à l'heure, qui est vraiment une femme géniale. Je parlais de Pierre Ninet, qui, à mon avis, est quelqu'un aussi de hyper doué. J'ai la chance de connaître Vincent de Dienne, qui est surdoué. Et d'avoir croisé Gad, et croisé plus que croisé, et valsé avec lui. Qui est un mec absolument génial et unique dans sa façon, sa vision de la vie, sa vision des choses et la façon qu'il a de transformer ce qu'il a observé. Et ce génie d'Edouard Baer, qui ne l'oublie... enfin, il n'y en a qu'un. Hein. Edouard Baer, c'est un esprit d'une vélocité. Je prends un peu de temps pour parler de lui parce que c'est vraiment exceptionnel. D'abord, la vie de quotidienne à côté de lui, moi je n'ai pas vécu avec lui, mais j'ai pu le côtoyer des journées entières. Sa façon de vivre, d'aimer les gens, de vouloir partager, sa façon de penser, sa rapidité et le carrefour qu'il y a dans sa tête. Parce que je pense que c'est même pas un carrefour, c'est un sens giratoire où il y a... à peu près 6 axes qui arrivent sur le même échangeur et qui, d'ailleurs, parfois, il finit pas une phrase parce qu'il est déjà sur l'autre. Et c'est un esprit exceptionnel et de drôlerie aussi. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils aient quelque chose en commun. C'est justement qu'ils n'ont rien en commun, tous ces gens.
Ils sont uniques, en fait. C'est ça que tu me dis.
Mais ce que j'ai aimé, moi, en commun chez chacun, c'est leur faille. C'est l'enfant qu'il y a chez eux. Pierre-François Martin Laval, c'est un enfant merveilleux. Mais c'est pareil.
Tous, pour toi, tous ceux-là, quand une faille, ils ont tous, c'est tous des enfants?
Ils ont tous des failles.
Ça, c'est sûr.
Des
nous
blessures.
Tous, hein, nous tous.
Ouais, ouais. Mais des failles qu'ils ont transformées en force. Et ce sont des enfants. C'est-à-dire qu'ils ont ils ont quand même un enthousiasme, un feu.
Une candeur, en fait, tu dis.
Une candeur, une curiosité. Une curiosité de l'autre. Une envie d'être ensemble. Un goût du partage qui est exceptionnel.
Parlons aussi un peu d'avenir quand on parle de cinéma. Tu évoquais tout à l'heure les plateformes de streaming. Comment toi, tu as vu ça arriver? Tu vois ça avec un Netflix, un Prime Video, un Apple, Apple TV, il y en a beaucoup comme ça. Mm-hmm. C'est infini. Tu vois ça comme une chance pour ton industrie? Tu vois ça comme un risque pour que les gens ne viennent plus dans les salles de cinéma? Ou toi, tu dis juste, on vit avec notre temps, c'est notre temps, faisons de la qualité?
Alors, je pense qu'il faut vivre avec son temps, absolument, en étant dans la vigilance, éthique. Pour ce qui est des cinémas, moi, j'ai le souvenir, en arrivant à Paris, d'avoir été dans un cinéma qui s'appelait le Studio Bertrand, et qui, le dimanche, diffusait 10 films différents, de 8h du matin à 23h, et où on venait avec des paniers pique-nique. Et où il y avait un échange dans ces endroits-là. Je pense que le cinéma revivra par
la convivialité. C'est-à-dire, le seul intérêt du cinéma, c'est d'être ensemble à vivre le film, dans le noir, où on peut secrètement avoir des émotions et les partager vibratoirement parlant. Hein ? Je me souviens avoir été au cinéma une fois avec mon oncle. On avait été voir le Festin de Babette. Et mon oncle, que je n'avais jamais vu pleurer, tout d'un coup, j'ai senti les sièges vibrer dans le cinéma, le siège sur mon rang, là. Et c'était lui qui sanglotait.
Il aurait sangloté de la même manière, tu penses, devant sa télévision ?
Jamais de la vie. Jamais de la vie. Et donc, je pense quand même que le cinéma sera sauvé par ça. Il faudra réinventer. Et c'est marrant parce que quand j'étais étudiante, je me disais, oh, ça serait bien qu'il y ait un endroit où il y ait une piscine, une bibliothèque, un cinéma et voilà. Ben,
un lieu de rencontre, un lieu de vie.
Le libraire à côté de chez moi a fermé et il est maintenant dans une salle de sport, comme libraire. Je pense que
tout
c'est
est connecté.
Et les gens ont envie de ça. Ils ont envie les coworking.
Quand toi tu reçois un script, est-ce que tu vas tout de suite regarder si c'est pour le cinéma ou si c'est pour une plateforme ? Est-ce que pour toi il y a un plus déjà si c'est pour le cinéma ou pas forcément ?
Alors si j'avais un plan de carrière,
ce que tu n'as pas, on a compris.
Je ferais certainement attention à ce que tout d'un coup c'est un film qui ne puisse pas être fait autrement qu'au cinéma, que pour le cinéma. N'oublions pas que le cinéma, il a été inventé finalement pour Fellini, pour Spielberg, pour Scorsese, et pour je sais pas, pour Genet, pour Wes Anderson, pour bah voilà, des metteurs en scène qui font du cinéma. Pas que des films. Les films, on peut les voir sur les plateformes, sur le téléphone, sur la télé, mais le cinéma ne peut être vu qu'au cinéma. Et donc, il faut réinventer ce cinéma-là, c'est-à-dire peut-être un circuit d'auteurs de cinéma et d'amateurs de cinéma et d'un cercle vertueux de convivialité.
Vous avez compris, hein, après Isabelle, qui était ministre de l'hébergement, on a ministre de la culture ici, donc avec des idées. On parle de petit écran maintenant, parce que tu parlais de cinéma. Ouais. Je pense notamment à ton rôle de Christiane Potin dans la série Fais pas ça, que tu as tenu pendant assez longtemps, hein, de 2010 à 2017, un grand succès sur les écrans en France. Là, on parlait de la différence aussi entre le cinéma et la télévision, c'est que ça, c'est parfait. Ça, c'est des produits pour la télévision. C'est des séries qui vont bien et qui parlent parfaitement. Tu ne vas pas forcément pleurer devant, mais au moins, tu vas rire. Mm-hmm. Donc, tu peux quand même dégager des émotions sur le petit écran.
Mais bizarrement, maintenant, la grande invention sur la narration ou la dramaturgie et sur les histoires exceptionnelles et là où ils se permettent le plus de fantaisie et d'extravagance, c'est sur les plateformes. C'est donc sur le petit écran qu'on va le voir, enfin sur un écran relatif. Mais c'est, je pense, une étape.
C'est une étape pour toi. Isabelle, on a beaucoup de gens qui vont te poser des questions, comme tu le vois. Et une autre pause amicale, on écoute quelqu'un que j'apprécie également beaucoup depuis des années, Thierry Bizot.
Chère Isabelle Nanty, c'est Thierry Bizot, le producteur historique de Fais pas ci, fais pas ça. Et je voulais savoir si tu étais heureuse de retrouver ton personnage mythique et culte, qu'on adore tellement, de Christiane Potin, dans le prochain épisode où les Lepic et les Boulets vont aller sur la Lune. J'en profite pour t'embrasser.
Qu'est-ce que c'est gentil. Quelle bonne idée de les envoyer sur la Lune. Ils sont déjà tellement lunaires. Hein? Ils vont retrouver leur planète, on va dire.
D'accord.
Alors, Christiane, je ne sais pas si elle va rester au sol. Est-ce qu'elle va être aux manettes de la fusée ou est-ce que...
T'es contente, toi ?
Ouais, j'adore cette équipe. Bah, quand j'ai rejoint l'équipe de Fais pas ci, fais pas ça, c'était grâce à l'assistante de mon agent, Véronique Auriol, qui m'avait dit « Cette série est géniale, il faut que tu y ailles et tout ». Mais il y avait dedans
Guillaume de Tonquédec, avec qui j'avais joué un an au théâtre et qui est une des personnes les plus délicieuses et les plus drôles que j'ai rencontrées. Il y avait Isabelle Gélinas, avec qui j'ai été à la classe libre du cours Florent élève, mais où on a vécu quand même une année incroyable. Il y avait Valérie Bonneton, qui avait joué dans mon film Le Bison et que j'avais vu jouer quand elle était au conservatoire et que j'adorais. Et alors donc, j'avais... Et puis j'avais vu aussi... j'avais envie de rejoindre cette équipe-là.
C'est ça, c'est désolé.
Parce que je savais que j'allais me marrer avec eux.
Passons à un petit quiz spécial cinéma pour sonder davantage tes goûts, même si on a, à mon avis, compris déjà un certain nombre de ces goûts-là. Tu te souviens, quelle est ta réplique de film préférée? Qui était la tienne ou celle que tu as entendue?
And now, I would like to sing the song to a friend of mine who was a great believer in the major chord.
C'est
Liza Minnelli dans New York, New York.
Génial. Le film que dans lequel tu aurais adoré jouer?
J'aurais aimé jouer Comme un torrent de Vincente Minnelli.
Waouh.
Shirley MacLaine, c'est mon actrice fétiche.
Fétiche.
D'ailleurs, en France, j'adorais aussi. Marlène Jobert. Je trouve que c'est une actrice merveilleuse, émouvante. Voilà.
Le film qui te fait pleurer à chaque fois?
Voilà, compris de Comencini. Mais là, récemment, j'ai vu un film qui s'appelle Close de Lucas Dont, que je recommande à tout le monde. Et j'ai pleuré comme j'avais pleuré pour L'Incompris de Comencini.
Le meilleur acteur, selon toi?
Tom Hanks me fait pleurer à chaque fois.
La meilleure actrice?
Alors, il est bon de dire Meryl Streep. Mais maintenant, je vois trop comment c'est fait.
Donc, c'est plus ça.
Donc, non, je dirais la meilleure actrice du monde. Pff, c'est dur. Hein.
Ça peut être de France.
Il y en a
hein,
tellement. On moi, je pense que Adèle Exarchopoulos
est exceptionnelle.
C'est un génie.
Le meilleur réalisateur ou la meilleure réalisatrice pour
toi? Scorsese, qui à chaque film a une façon différente de mettre en scène. C'est incroyable. Chaque sujet a sa mise en scène.
Une actrice ou un acteur avec qui tu aimerais jouer?
Oh, il y en a plein.
Hein?
Je voudrais rejouer avec Vincent de Dienne. Et parce que... Alors moi, maintenant, ce qui me touche, c'est ce qui s'échange dans les regards. C'est ce que je vois au fond d'un œil. Et
pendant longtemps, tu dis ça, c'est important, parce que pendant longtemps, tu ne regardais pas les gens dans les yeux.
Non, je n'osais pas.
Ouais. Et donc, tu regardais autre chose, le nez et la bouche.
Ouais. Je regardais beaucoup la bouche, parce que je trouvais que la bouche ne mentait pas. Avec les yeux, on peut faire les yeux doux, on peut faire les nains. La bouche, elle suit la pensée, en fait. Mais maintenant, je regarde les yeux et je puise... toute ma force dans l'autre.
En 2003, on revient à un moment important pour toi, parce que c'est un moment unique. C'est un moment où tu vas passer derrière la caméra. Donc là, tu vas réaliser le film, Le Bison. Qu'est-ce qui t'a donné envie de réaliser? Il y avait quelque chose, hein, la mise en scène, tu l'avais faite, et les gens t'ont poussé.
C'est Claude Berry qui m'a vu dans Astérix. Maintenant, je crois que quelque part, il voulait... par moi, rentrer un petit peu en contact avec Gad. Secrètement. Ah. Ouais. Et Claude Berry me proposait des scénars à mettre en scène.
Et avec Gad dedans, alors?
Pas forcément, mais et des sujets qui ne me plaisaient pas du tout. J'ai fini par lui dire, mais vous savez, moi, j'écris un film. Ah bon, et quand est-ce qu'il sera terminé? Et je lui dis le 15 mars. Tu vois, c'est marrant. J'avais rien écrit.
Donc... Hey, tu sais quoi, la créativité, elle est dans l'urgence, tout le temps.
Ah ouais. Donc j'ai vite écrit ce scénario, qui est donc le bison.
Bison. Et sa voisine.
Dorine. Et je lui ai amené. Et le 15 avril, on était en production. Et donc ça, c'est vraiment Claude Berry. Et je me demande si, d'ailleurs, je ne suis pas sûre qu'il ait lu le scénario. Je pense qu'il a lu les 15 premières pages.
Il a rencontré Gad, quand même?
Après, ils se sont rencontrés. Mais ils n'ont pas travaillé ensemble. Ouais. Je crois pas. Voilà.
Donc là, un moment important, ce même période, puisque c'est un moment de tournant personnel, tu apprends que tu ne pourras jamais être maman biologique. Mmh. Donc là, si je me souviens bien, c'est un sujet essentiellement de la médicamenteuse.
Oui, oui.
Donc c'était parce que ta maman avait pris des médicaments, voilà. C'est ça. Hein.
Maman faisait des fausses couches et pour pouvoir garder ses enfants, il y avait un produit qui s'appelait Distilbène.
Distilbène, c'est ça.
À 10 aussi.
À 10.
Et donc du coup...
beaucoup de femmes ont eu ces difficultés-là.
20 ans plus tard, on a découvert que les enfants nés de ce produit étaient stériles. Mais moi, je l'ai appris bien plus tôt que 2003, puisque... je crois que c'était en 93. Ma sœur, qui est aussi Distilbène, était suivie par un médecin et donc a découvert qu'elle était Distilbène et a dit bah, « Vous n'avez pas une sœur, j'aimerais bien la voir. » Donc, c'est là où j'ai fait cet examen.
De fertilité.
Et donc, j'ai su, j'avais 30 ans. Et moi, à 35 ans, j'étais ménopausée.
Et quand il te dit ça à 30 ans, c'est à nouveau une... Tu dis, la vie sur ces 10 ne me lâche pas. Tu t'es fracassée parce que tu deviens une famille nombreuse. Tu dis, c'est comme ça, on va faire autre chose. Tu sens déjà que tu vas adopter? Tu sais que c'est ton choix?
Ben, en fait, j'ai dû assimiler deux choses en même temps, qui étaient que je venais de me faire quitter et j'apprends en même temps que je ne pourrais pas avoir d'enfant.
Biologique.
Donc, il a fallu que je me répare de ces deux chocs. Et donc, surtout, je me suis vécue comme une demi-femme. C'est ça ce que ça fait, en fait, cette annonce. Et comme quelqu'un qui ne peut pas promettre grand-chose à un homme.
Et oui, parce qu'en effet, les hommes, à ce moment-là, du moment une volonté de paternité, donc tu savais directement, dès le début, que si tu jouais le franc-jeu avec ton compagnon, il y a des chances que... Ouais.
Mais ce n'est pas pour ça que j'avais été quittée. Hein. J'avais été quittée avant.
Avant, exactement. Tu as eu ça. Mais dans le futur, là, tu savais qu'à ce moment-là, ça allait être compliqué. Futur.
Donc, j'ai commencé d'abord à faire une thérapie pour faire le deuil de la maternité biologique. Et quand j'étais sûre que ce deuil de maternité biologique était passé, j'ai commencé les démarches pour adopter. Parce que je n'avais pas renoncé à être mère. Moi, quand j'étais enfant, quand j'étais la petite fille dans mon village, j'adorais aller voir les bébés qui venaient de naître. J'étais dingue de ça. Hein. Et j'avais des milliards de poupées. Je jouais tout le temps à la maman. J'étais une maman qui avait des enfants, je les changeais, je les prenais, j'avais des clés dans la main, j'imitais ma mère certainement, j'avais un sac à main, je me mettais au volant de la voiture de mes parents, je faisais celle qui faisait tout. Voilà, j'étais une femme, une Wonder Woman, mais maman. Donc, j'ai pas pu renoncer à cette maternité. Et donc, j'ai commencé à faire le processus. Voilà. D'ailleurs, je voudrais juste faire une parenthèse à laquelle j'ai pensé, vous allez voir le... Un psychanalyste, il va se régaler que je passe de ça à ça, mais c'est parce que j'y ai pensé hier. Quand on fait une démarche pour adopter, on a des tests psychiatriques pour être sûr qu'on ne va pas mettre en danger un enfant qui va nous être confié, parce que c'est le bien de l'enfant qui est avant tout regardé dans tous ces tests et toutes ces démarches qu'on est obligé de faire si on veut être apte à l'adoption. Je ne comprends pas, et c'est là où est ma parenthèse, que pour un chef d'État, il n'y ait pas des tests de psychiatrie. Ils sont en responsabilité de milliards de personnes, de milliers de personnes, et ils n'ont même pas test de psychiatrie. Tu vois très bien à quoi je pense.
Je pense que tu parles des dernières sorties, ou des sorties récurrentes de l'ancien président américain.
Ben voilà.
Donc, ça serait
nécessaire. Donc voilà.
Donc tu commences.
Donc je fais tous mes tests et tout ça. Et
là, tu dis, je vais être. Voilà. Donc là, il faut...
Et je me prépare.
Alors il faut le savoir, pour ceux qui voudraient l'être, c'est important que tu en parles, c'est long, c'est d'une complexité...
Mais pourquoi? Parce qu'en fait, c'est une mission, c'est une responsabilité énorme. On va être les parents d'un enfant brisé. Parce qu'on le sait maintenant de plus en plus, l'abandon laisse une trace même neurologique dans le cerveau.
Bien sûr.
Donc, c'est une responsabilité. Donc, c'est normal qu'on
fasse très attention. Je suis d'accord. D'ailleurs, je ne disais pas que c'était anormal. Il est vrai qu'aujourd'hui, on voit qu'il y a beaucoup de parents qui veulent adopter. Mm-hmm. Le processus est quand même extrêmement long. Assez peu, parce que c'est quelques centaines d'enfants qui sont adoptés chaque année. Quand il y a des milliers et des milliers de Françaises et de Français qui veulent adopter, il y a peut-être quand même un système peut-être à peut-être repenser.
Alors, si je peux me permettre...
Bien sûr.
C'est parce que nous, on voit ça dans ce sens-là. Les personnes qui sont en charge d'enfants dont la vie commence par un très grand malheur qui est l'abandon, c'est eux, ils ne pensent qu'à ces enfants-là. C'est pas un commerce, c'est pas un... Donc, ils ont des enfants à confier et c'est tout. Et donc, leur mission, c'est de trouver des parents et ils ont moins d'enfants. Enfin, sauf dans le monde entier, évidemment, mais dans le monde entier, comme il y a eu des abus, des trafics, des choses comme ça, ils essayent de plus en plus à ce que les enfants restent dans leur pays et soient adoptés par des parents de leur pays.
La France est très restrictive dans ses processus d'adoption. Encore une fois, tu as deux écoles, ceux qui pensent que c'est une bonne chose, ceux qui pensent que, moi j'en fais partie, qu'il y a énormément de jeunes qui ont eu ces traumas, mais comme tu le sais, t'as pas forcément besoin qu'être adopté pour avoir des traumas quand t'es jeune, et que ces jeunes sont parfois en train d'attendre, et des parents attendent des années avant de pouvoir avoir cette option. Toi, il y a aussi deux types d'enfants adoptés, ceux qui ont vraiment perdu les deux parents, et ceux qui ne donnent pas forcément les mêmes impacts, et ceux qui ont été donc abandonnés pour d'autres raisons. Toi, t'avais Talula, c'était... un abandon ou c'était les deux parents qui étaient en fait morts? C'était lesquels les deux? Tu le sais, toi?
Mais si on pouvait le savoir.
Tu peux le savoir parfois, certaines adoptions.
Ouais, mais là-bas en Chine, c'était
un peu.
C'était fait un
parce
peu.
Parce que c'est d'origine. Donc, t'as raison.
Elle est née en Chine. Et donc, elle a été trouvée. Il y a une sorte d'historique de son parcours. Et dans cet historique, il n'y a pas de trace des parents. Elle a juste été déposée dans un endroit. Et
donc, c'est plutôt un abandon.
C'est plutôt un abandon, parce qu'elle avait un mois. Donc, elle a déjà eu un mois avec probablement sa mère ou ses parents. Puis, elle a été trouvée. Puis, elle a été confiée à un orphelinat. Puis, à une famille d'accueil, parce qu'il y avait le SRAS à l'époque. Et les enfants étaient bloqués dans le pays. Enfin, ceux qui étaient... confiée à l'adoption. Et donc, elle a eu trois ruptures de lien, ce qu'on appelle. C'est-à-dire, elle s'est habituée, hop, on l'a séparée, hop, elle s'est réhabituée, hop, on l'a... Donc, trois fois comme ça...
C'est des conséquences.
C'est des blessures,
oui. Ouais, bien sûr. Tu dis, je trouve ça très beau ce que tu dis en parlant de ta fille... Elle t'a éduqué autant que toi, tu l'as éduqué. Qu'est-ce qu'elle t'a appris, justement?
Je suis meilleure en humilité.
Ça, les enfants, c'est génial pour ça.
Ah ouais. Je ne sais pas.
Sans filtre, hein, ouais.
Ouais. Je sais que je ne sais rien et je sais que plus ça va. Mais en même temps, ça m'intéresse de ne pas savoir parce que je me méfie du savoir. En fait, je me méfie. L'expérience est intéressante. L'expérience est vraiment un truc génial. Mais oublier qu'on sait, c'est tellement bon.
En parlant de ta fille, je te propose une autre pause amicale. La quatrième, quelqu'un qu'on connaît tous les deux, qui était d'ailleurs notre lien au départ, qui était à l'école qu'on connaît très bien, et qui s'appelle Florence Bosque.
Que j'adore.
Que nous adorons.
C'est une amie, vraiment.
Chère Isabelle... Voilà 15 ans que nous nous sommes rencontrés grâce à ta fille. 15 ans d'amitié franche et fidèle. Je savais que tu avais de l'humour, mais une question me taraude. Devant les aléas de la vie, où puises-tu cette immense qualité d'écoute, cette immense dose d'empathie et cette immense cargaison de générosité? Je t'embrasse.
C'est très gentil. Je pourrais lui retourner la question, évidemment. Je ne le réfléchis pas. Non, je ne le réfléchis pas. En fait, je suis un peu superficielle. Dans le sens où, par exemple, moi, je ne pense pas à la mort, je ne pense pas à plein de trucs qui pourraient me freiner. Je suis dans la vie. Et donc, par exemple, il y a des... Mais mon père, je raconte ça. Mon père, un jour, avait des examens très compliqués à faire. Il croise quelqu'un dans la salle d'attente qui faisait la tête. Et mon père lui dit, vous n'avez pas l'air bien. Il dit, bah non, la dernière fois que j'ai fait cet examen, j'ai failli y passer. Ah bon, on peut y passer en faisant cet examen, dit mon père. Ah bon. Et il nous dit, donc pendant... 5 minutes, j'ai essayé de m'imaginer que j'allais peut-être y passer. Puis au bout de 5 minutes, je pensais à autre chose. Voilà, je pense que c'est peut-être le trouble de l'attention que j'ai dû hériter un peu de mon père, qui fait que, en fait, je ne m'attarde pas sur les douleurs et que ce qui me plaît, moi, c'est les gens. Les personnes sont merveilleuses. Et surtout, ce que je voudrais dire, Alexandre, parce que tout à l'heure, on a parlé des gens doués et tout ça. Moi, je crois qu'il y a un potentiel immense chez chacun. Il y a des gens qui vont être peut-être intellectuellement moins, mais ils vont avoir un don pour autre chose, etc. L'école devrait servir juste à ça. Éduquer sur les choses pratiques de la vie, mettre un petit peu de culture en plus. Pour qui a des capacités, les améliorer dans des capacités qu'ils auraient, mais surtout comprendre que en fait ce qui va surtout nous faire vivre, c'est les autres. Et je vais juste indiquer un film que je recommande à tout le monde, qui s'appelle Dernière nouvelle du cosmos, qui a été fait par Julie Bertuccelli, qui est sur la, tu vas connaître, sur la poétesse Babouyek. Et ce film est génial parce que aussi on voit la grande intelligence de la mère. À un moment donné, on voit qu'elle constate que sa fille, qui est autiste, ne peut pas communiquer. Elle écrit, elle se mord, c'est affolant. Et cette mère se dit, c'est pas possible. Dans ma fille, il y a forcément autre chose que cette souffrance, ce cri, et elle constate, on voit ça dans le film très très bien fait, qu'elle n'a pas le pouce préhensible, ce qui est le début de l'humanité, ce qui nous a différencié.
Ton pouce.
Voilà. Donc elle l'entraîne à préhenser.
Apprendre un objet.
Apprendre un objet. Et bon, après, on voit que sa fille peut attraper des lettres. Et on découvre qu'elle sait lire et écrire et qu'elle écrit des poèmes inouïs.
Alors, je vous conseille, évidemment, tu parles de Babouyek, parce qu'elle fait partie de cette troupe de ces jeunes qui sont neuroatypiques, qui appartiennent aux journalistes du Papotin, qui est cette émission, on en parle souvent ici, émission exceptionnelle. Tu parles de ce film, je conseille tous les mois de regarder, c'est sur France Télévisions, c'est une demi-heure exceptionnelle, où tu as beaucoup d'amis de toi. Tu parlais d'Adèle tout à l'heure, qui l'a fait, le président.
Connais pas, Adèle, c'est pas une amie.
Mais bien sûr, c'est pas une amie, en tout cas, quelqu'un que tu as pris. Elle a également été, et c'est assez exceptionnel. Donc,
et il y a Claire Ottaouais aussi, que j'adore, qui fait partie du groupe Astéro Typique, que je recommande à tout le monde d'écouter.
Voilà. C'est là, si vous voulez,
aussi
en concert.
Aucun homme ne ressemble à Brad Pitt dans la Drôme. C'est génial.
Écoutez ça. En parlant de la Drôme, on parlait de la Meuse avec toi. Quel conseil tu donnerais à quelqu'un qui vient pas du centre de Paris, qui dit, moi aussi, j'aimerais réussir cette vie-là. T'as un conseil ?
Zéro conseil.
Zéro conseil. Toi, tu m'aides pas là.
Ben non, on peut pas donner de conseils. On peut écouter.
De faire. Peut-être d'y aller.
C'est sûr que moi j'ai eu beaucoup de chance. J'ai croisé, comme on disait tout à l'heure, Jean-François Schaff, Rémi Chenier, Huster, Florent, Weber.
Mais parce que t'as fait. T'y as été. Tu n'es pas resté lointaine en disant juste je reste chez moi.
Il faut un petit peu croire à son étoile quand même. Hein. Un peu. Il faut un peu croire à son étoile. Mais juste, la chance, c'est quand même énorme. Et puis, je donnerai surtout des conseils à ceux qui reçoivent des gens qui rêvent de faire quelque chose. faut arrêter de penser qu'il n'y a qu'un chemin. Tous les chemins mènent à soi et à cette très belle rencontre qui est qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on peut faire et comment. Voilà, c'est tout. Et que tout le monde a un monde en soi, comme je disais, regardez ce film « Dernière nouvelle du cosmos ». On a tous un bout de cosmos en nous.
Tu as dit dans une interview, et j'adore quand tu dis ça, j'ai raté ma vie, mais je l'ai bien ratée.
Ouais. Avec panache.
Tu changeras quelque chose. Je pense que beaucoup de gens rêveraient de rater leur vie comme ça. Tu changeras quelque chose. Si tu avais une baguette magique, tu changerais quoi?
Tout. Tout sauf ma fille. Non, je changerais tout.
Tout. Toi, physiquement, là où tu as grandi, tes parents?
Je changerais de corps.
Tes parents?
Non.
Ah.
Je changerais pas mes parents, je changerais pas ma famille, je changerais pas ma fille.
Tu changerais pas le premier cercle. Mais sinon, tu changerais.
Non. Mes amis non plus. Ce serait méchant de dire ça. Mais je vivrais pas dans le même pays. Je serais pas dans ce corps.
Quel pays?
Je serais une femme. Soit je serais grande, noire et je chanterais le blues, soit je serais une femme belle naturellement, qui sait tout faire. Puis je sais pas, je ferais d'autres films, je jouerais autrement, si j'étais actrice. Hein. Tu sais, j'avais passé le concours de la Royal Academy à Londres, quand j'avais 20 ans. Et chaque jour, ils prennent un garçon et une fille. Et donc, tu passes le premier tour, tu passes une scène. Deuxième tour, tu passes une scène. En anglais, hein. Et puis, le soir, il reste un garçon et une fille. Donc, il y avait moi et un punk. C'était dans les années 80. Hein. Et puis, là, je fais l'entretien. Et puis, je comprends rien. Ce qui m'a valu cette phrase que j'ai recasée dans les profs. Attention, hein. Les Anglais parlent très, très bien l'anglais. Ce qui est vrai.
Ça vient de là.
On comprend rien. Donc moi, ils me parlent et tout, je ne comprends rien. Et ils me disent, mais comment vous avez pu faire les scènes? Je dis, je les ai fait phonétiquement et puis je suis une bonne bluffeuse. Et bon, ils m'ont dit, apprenez l'anglais et revenez l'année prochaine. Et parfois, je trouve ça vertigineux de se dire que si j'avais eu ce concours, je vivrais en Angleterre. J'aurais pas eu du tout la même vie, pas les mêmes rencontres.
Pas sûr que ça aurait été mieux?
Ah non, je dis pas que ça aurait été mieux.
Ça aurait été différent.
Non, c'est vertigineux.
Ouais, c'est vertigineux. Tu dis comme une petite décision d'une personne à ce moment-là. Mais tu me dis ça, mais c'est ce moment-là où tu vas finalement rentrer parce que tu as tapé à la porte et que tu as Francis Huster qui va faire quelque chose. Et c'est toutes ces rencontres. Mm-hmm. Ces personnes ne sont pas là à ce moment-là, n'ouvrent pas cette porte-là à ce moment-là, ne te tendent pas la main à ce moment-là. Ben, on ne serait pas là en train de se parler. On va te faire une petite pause vérité. Je vais te citer quelques clichés sur ta profession. Ça va être marrant, ça. Et tu devras me dire s'ils sont vrais ou faux. C'est assez basique, donc vrai, faux, tu peux développer ou pas. Est-ce que tu es prête? Les acteurs sont égocentriques.
Certains, ouais.
D'accord. Bah, certains, ouais. C'est un peu comme, tu sais, quand je joue avec mes enfants, ni oui ni non.
Ouais.
Là, effectivement.
Affirmatif. Négatif.
Pourquoi
ça, c'était
pas,
les ruses pour.
Ça marche bien, c'est ruse.
Ouais.
Les artistes sont souvent torturés.
Bah ouais.
Les humoristes font en réalité partie des gens les plus tristes.
Non.
C'est plus épanouissant de jouer des rôles de méchants que de gentils.
Oui.
L'intelligence artificielle va remplacer les actrices et les acteurs.
Peut-être.
Les salles de cinéma vont finir par disparaître.
Non.
Ah. Il est plus compliqué de jouer dans une comédie que dans un drame.
Non, pas compliqué.
Alexis Michalik est le meilleur metteur en scène actuel.
Et Thomas Joly. Ah oui, et puis...
Thomas Joly, on va 2 secondes, parce que Thomas Joly a une responsabilité considérable de s'occuper de la mise en scène de la cérémonie d'ouverture des Jeux Olympiques.
Je détesterais faire ça. Il y a d'autres metteurs en scène très intéressants. Je pense que Hervieux-Léger est un super metteur en scène. Je pense aussi que les frères Ruff sont des bons metteurs en scène. Anne Kessler est un grand metteur en scène.
Moi, ce n'est pas forcément ma question, mais en tout cas, j'aurais pu te poser la question. Quel est, en vérité, les meilleurs... Là, je sais que j'ai une longue liste de metteurs en scène.
Mais ouais, parce qu'il y en a un que j'adore, que je trouve génial.
Vas-y.
Et là, tout de suite, c'est Martial Di Fonzobo. Voilà.
On devrait enlever la Légion d'honneur à Gérard Depardieu.
On ne devrait jamais donner de Légion d'honneur aux artistes.
Ah, je m'en sors bien.
Oh, magnifique. Il n'y a pas de vrai ou non. Hein. Bon, bah, en tout cas, je te remercie. Je vous propose maintenant une pause musicale. Isabelle, quelle est ta chanson culte?
Oh,
chanson que tu adores écouter, celle que...
Ah, ce que j'adore écouter... Love is All.
On va l'écouter, on va en écouter un extrait. Dernière question pour toi. Quel est l'endroit idéal pour faire une pause?
Ben, la Norvège.
La Norvège?
Ah ouais.
Tu y retournes souvent?
Pas assez.
Pas assez?
On a une maison là-bas. Mon frère et ma sœur y vont.
T'as moi, des cousins, j'ai... des cousines?
Ouais. Mais c'est dingue. La dernière fois que j'étais allée, juste après le décès de mes parents, j'avais réalisé à quel point la nature est... imprégnante. C'est-à-dire, les rochers sont... dégagent une force. Les arbres, le vent, la lumière, parce qu'en été, là-bas, on est en surex. Hein. C'est une lumière pas croyable. La mer, se baigner dans cette mer-là, qui est salée d'une certaine façon. C'est merveilleux. Les fleurs des champs, tout est dingue. Le vert des arbres, le vert des prairies est unique.
On sent que tu aimes ce pays. Isabelle, merci d'avoir accepté mon invitation.
Merci pour l'invitation. Je t'admire beaucoup parce que ton parcours est dingue et tout ce que tu fais pour tout le monde, c'est exceptionnel. Et ce que tu fais pour ce qu'on ne sait pas.
Merci à toutes et à tous d'avoir pris le temps de faire une pause avec nous. J'espère que l'émission vous a plu, inspiré ou fait réfléchir. Si c'est le cas, je compte sur vous pour le partager avec vos proches, laisser un commentaire et mettre la note de 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Si vous voulez me suggérer des invités ou simplement me faire part de retour, vous pouvez me contacter via LinkedIn en tapant Alexandre Mars ou bien m'écrire à l'adresse suivante, le podcast pause@gmail.com.